Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Vous êtes sur la zone payante et cette semaine, on prend le temps de faire un tour d'horizon des forces en présence pour nous préparer à la nouvelle saison de la NFL qui débutera dans quelques jours seulement. Et on est en compagnie de Stéphane Cadorette et on est rendu à la division, à l'Association nationale. Et on va finir avec les Cowboys. On va partir du sud. Et en regardant la division de Tom Brady et des Buccaneers, de retour, on pense qu'il y a encore une bonne équipe, pas changé grand-chose à part Gronk qui est parti. Est-ce que Tom Brady revient dans des conditions qui lui permettra de sortir du football la tête haute?
Ben, il y a pas mal tout pour continuer de performer, tu sais, mais il y a un point bien inquiétant, c'est sa ligne à l'attaque. Puis là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais Tom Brady décoche la balle tellement vite, là, en deux secondes, que peu importe sa ligne... »
Ouais, mais Tom Brady. Ouais.
T'es plus capable, hein? Je t'entends déjà, t'es plus capable. La saison n'est pas commencée, Jean-Nic. Il va falloir que tu prennes une grande respiration, là.
Ouais, mais tu sais, j'ai 45 ans, là.
Ouais, c'est ça.
There's a lot of shit going on.
Ouais, il l'a dit, ça, cette semaine. Hein? C'était son explication pour pourquoi il n'a pas été au camp d'entraînement.
Exact.
Lot of shit going on. Là, par contre, tu as le centre Ryan Jensen qui est fini pour l'année. Il y a deux gardes qui sont partis. Un des gardes qui devait remplacer l'un des deux gardes s'est blessé aussi. Ça commence à faire une drôle de ligne à l'attaque. Donc ça va être à surveiller en début de saison. Mais sinon, écoute, les Buccaneers, là, ils n'ont pas perdu grand-chose au change. C'est sûr, ils ont pu Rob Gronkowski, mais ils ont encore Cam Brate. Tu sais, il y a des atouts là, de tout bord, tout côté. Tom Brady qui n'est pas à plaindre. Côté receveur, il y avait déjà plusieurs gros noms autour de lui en Mike Evans, Chris Godwin. On ajoute Julio Jones. S'il est en santé, il semble-t-il qu'il a connu un formidable camp d'entraînement. On a ajouté Russell Gage aussi des Falcons, qui est un petit receveur bien explosif. Donc, il y a beaucoup d'armes à sa disposition. Puis, en défense, les Bucs, pas nécessairement des départs majeurs, tu sais. Écoute, Jordan Whitehead, le maraudeur, oui, mais c'est pas, disons, la pièce maîtresse de la défense. Je pense qu'il y a encore tous les éléments pour en faire l'équipe championne dans le Sud.
Mais ça, c'est sans compter l'arrivée de Baker Mayfield.
Ah oui, avec les Panthers, Baker Mayfield, c'est drôle parce qu'il y a eu la compétition tout le camp d'entraînement entre Baker Mayfield et Sam Darnold, qui avaient été les deux corps arrière qui avaient été repêchés au sommet du repêchage de 2018.
C'est dire comment
une carrière peut dérailler vite dans la NFL. Fait que c'est Mayfield qui a la job, effectivement. Puis, il est pas dans une mauvaise situation au niveau de l'attaque. Tu sais, t'as Christian McCaffrey, là, c'est juste la question de son état de santé. Là. Ça fait 2 ans que c'est plus difficile. Il y a un bon duo de receveurs, DJ Moore, Robbie Anderson. Mais c'est une équipe qui a comme, je sais pas comment dire, ils ont pas de personnalité, c'est une équipe fade un peu. Défensivement, c'était bizarre l'an passé, tu sais, tu vois, ils ont terminé deuxième les Panthers au chapitre défensif pour les verges accordées. Sauf qu'ils n'ont pas été opportunistes.
C'est leur début de saison. Là. Leur début de saison était formidable. Là. Après ça s'est effondré. Ils ont gardé des bonnes statistiques jusqu'à la fin. Là, mais...
J'allais dire, c'est comme une dualité parce qu'ils ont été deuxième au chapitre des verges accordées, mais 21e pour les points accordés. Donc, c'est là où le bas blesse. T'as beau freiner le monde au milieu du terrain, tu concèdes tellement de gros jeux à un moment donné que ça finit par te faire mal. Donc, les Panthers... Ça risque d'être une genre de saison de purgatoire, là, tu sais. Je les vois pas nécessairement faire beaucoup de bruit. Se maintenir en milieu de peloton, là, tu sais, au mieux, là. Donc,
je vois ça dans toute la division, là. Les Falcons puis les Saints, là, tu parles de saison de purgatoire, là. J'en vois pas.
Bon, c'est là qu'on. Là, on va avoir un petit désaccord. Moi, les Saints, je les vois peut-être plus forts que ce que tu vois. Ça veut pas dire que j'ai raison. Mais écoute, je sais, tout le monde se dit, Sean Payton est parti, c'est la fin du monde. C'est sûr que ça aide pas. Ce que j'aime, malgré son départ, c'est qu'il y a une continuité. Tu sais, on a promu Dennis Allen, qui était coordonnateur défensif, comme coach en chef. Donc, il y a une continuité là. Puis, il y a Pete Carmichael, qui était le coordonnateur offensif, qui conserve ses fonctions. Donc, c'est pas non plus...
C'est pas zéro, là. C'est pas le grand ménage.
C'est pas un grand coup de balai où on efface tout et on recommence. Après ça, Jameis Winston, ben là, je suis ambivalent. Moi, ça a jamais été mon préféré, monsieur revirement. Mais l'an passé, avant sa blessure, on va lui donner, Jean-Nic?
Non, il était très bon.
Il semblait se contrôler. Il avait un dossier de 5-2. Il avait 14 passes de toucher, 3 interceptions. C'était pas le Jameis Winston un peu poule pas de tête qu'on voyait avant, là. Donc, ça, j'ai hâte de voir. Il y a le receveur Michael Thomas qui est supposé enfin être en santé. On a ajouté Jarvis Landry. On a été chercher en première ronde Chris Olave, un receveur d'Ohio State qui faisait beaucoup de bruit dans NCAA. Il y a des armes, tu sais, honnêtement. Puis défensivement, ça n'a jamais été une crainte. C'est pas une unité, tu sais, qui nous laisse beaucoup de doutes. Tu sais, ils sont capables de jouer. Les Saints qui se sont ramassés des fois avec leur deuxième puis leur troisième corps arrière, puis ils restaient dans le match grâce à leur défense. Donc, je suis pas prêt à faire une croix sur les Saints comme plusieurs semblent le faire. Je les vois même en série.
Mais écoute,
c'est ça. Par contre, les Falcons, on s'estime pas. Pour moi, il y a de très bonnes chances qu'ils parlent premier au prochain repêchage. Je les vois carrément pas performer cette année. Tu sais, Marcus Mariota au poste de corps, c'est cute. Mais combien de temps avant que les équipes adverses le figurent?
C'est là qu'on va voir que Matt Ryan, il était pas fini, là. Puis qu'à mon avis, là, il est encore un grand compétiteur. Puis j'ai toujours eu quand même de l'admiration pour Matt Ryan, qui a toujours été steady, là, tu sais, malgré toutes les saisons. Là, on va voir que le plancher va lâcher, d'après moi.
C'est pas juste Mariota en passant, là. C'est qu'il y a des trous partout.
Il y en avait l'année passée aussi, là. Puis, Matt Ryan les comblait, là, à l'attaque, en tout cas, là.
Fait que tu sais, je te le dis, là, Jean-Nic, moi je serais pas surpris là, qu'ils gagnent 3-4 matchs pas plus, les Falcons. Puis j'espère pour eux que je me trompe, j'espère pour moi que je me trompe pas, mais au moins je me serais prononcé sur une saison que je pense qui va être misérable.
OK, dans le Nord maintenant, tu nous parleras des Vikings à la fin, mais les Bears, il y a de l'espoir.
C'est une torture, là.
Je sais, je vais te laisser.
C'est une torture, là. Premièrement, me faire parler des Vikings à la fin puis des Bears en premier, c'est une
double dip, là. Je sais, je joue avec tes nerfs. Mais là, les Bears, en plus, je vais pas continuer de jouer avec tes nerfs, là, mais tout le monde pense que là, c'est leur année, les Bears.
Tout le monde pense ça?
Ben, nouveau corps arrière, nouvelle direction, nouveaux espoirs.
Non, ben écoute, il y a une bonne chose, c'est que Matt Nagy est parti, là, l'entraîneur-chef qui était carrément pas de niveau. Il y aura peut-être une chance un jour ailleurs, puis il va la saisir, mais comme première shot, c'était pas bon. Justin Fields, c'est très intriguant comme corps arrière. À son année recrue, ça a été difficile, mais il est très mal entouré, puis c'est ce que je crains encore une fois. À part Darnell Mooney, je vois pas de receveurs qui font vraiment une différence dans cet alignement-là. Puis on a fait très peu pour améliorer la ligne à l'attaque, qui est vraiment une passoire là, à Chicago. Ça, c'est pénible. Puis là, encore là, les gens vont dire « Ouais, mais Justin Fields, il est mobile, il va s'en sortir. » Mais c'est pas évident quand t'as une ligne comme ça. Tu sais, la preuve que c'est pas une super ligne, ils ont été chercher Alex Leatherwood, le gars des Raiders dont je te parlais tantôt, en renfort. Là. Tu sais, quand t'es rendu là, c'est que t'as pas nécessairement une grande confiance.
Son contrat recru, là.
Ouais, c'est ça. Donc, les Bears, pour moi, c'est là où ça fait mal. En défense, tu sais, on a tendance à voir les monstres du Midway, là, en 1985. C'est plus nécessairement ça en ce moment. Il y a de bons éléments. Mais je continue de croire que la saison des Bears pourrait être pénible, honnêtement. Ce qu'on veut voir du côté de Chicago, à mon avis, c'est une réelle progression pour Justin Fields. C'est ça qui sera encourageant au-delà des résultats. Si les résultats viennent avec, tant mieux, c'est un bonus. Mais je pense pas que c'est une équipe qui est rendue à être prétendante déjà.
Détroit, on parle déjà du premier choix au repêchage.
Ouais, ben tu sais, moi je les ai trouvés très compétitifs l'an passé, là, Détroit, là, malgré tout ce qu'on disait d'eux, puis les railleries, puis les jokes à leur endroit. Là.
Mais Dan Campbell, il fait ça, par exemple. L'entraîneur des Lions, là, c'est comme un gars plein d'énergie, puis wow, tu as envie de jouer pour lui, mais à un moment donné, ça c'est
la seule chose, c'est que ça durera pas longtemps, c'est ça. Ouais. Il faut qu'il en profite pendant que ça passe. Là. On sait qu'il y a eu un long contrat, donc possible que l'état-major soit très patient envers lui. mais il va falloir tranquillement qu'il y ait des résultats, là, parce que à un moment donné, tu peux pas juste miser sur l'émotion, là.
Non,
botter des poubelles puis faire des speeches.
Chanter Billie Jean là, dans la salle de joueurs, là.
Mais hey, Aiden Hutchinson, il a-tu été bon? C'était écœurant. Ceux qui ont pas vu le vidéo, allez voir ça. Aiden Hutchinson, Billie Jean, là. C'est une interprétation vraiment convaincante.
Puis c'est une recrue dont ils veulent voir prendre du leadership et tout ça. Puis en tout cas, ouais. C'était vraiment adorable.
Puis ça, j'adore en passant qu'Hutchinson soit à Détroit parce que c'est un natif du Michigan, un gars de la place. Tu veux bâtir tes fondations sur des gars comme ça qui veulent être à Détroit, qui ont l'amour des Lions puis le succès de l'équipe à cœur. Donc ça, je leur souhaite du succès avec lui.
Les Packers, eux autres, du succès, on peut leur en souhaiter, là, mais c'est pas ça qui manque des dernières années, sauf dans les playoffs. Mais là, on parle de la saison régulière, mettons, là, on voit mal comment que les choses pourraient mal aller quand t'as Aaron Rodgers qui est en carrière de ton équipe.
Ouais, c'est ça. Il y a la question des receveurs, là, comme on parlait tantôt, tu sais, Adams qui est parti, Marquise Valdez-Scantling qui est parti. C'est la grande question, je te dirais, avec les Packers, parce que du côté défensif, il n'y a pas nécessairement de trou béant, là, je pense pas. Tu sais, Za'Darius Smith est parti, mais avec Rashan Gary, qui est en totale explosion depuis l'année passée, ça va vraiment aider à colmater cette brèche-là. Et Rodgers, il a souvent fait des miracles avec à peu près n'importe quel receveur. La seule chose, c'est que Davante Adams, c'est pas un receveur comme les autres. Là. C'est pas un receveur correct ou bon. Là. C'est top niveau dans la NFL. Donc, ça, c'est intriguant à quel point il va avoir une chimie à recréer avec ses receveurs, là, M. Rodgers. Je pense encore que les Packers, c'est une bonne équipe qui va rivaliser vraiment là, pour le sommet de la division.
Avec les Vikings?
Tout à fait, mon cher Jean-Nic. Puis là, écoute, c'est peut-être mon optimisme débordant de grands mauves qui déborde. Là.
Kirk Cousins a fait le top 100 des joueurs les meilleurs joueurs de tout dans leur père.
Ah, ça a dû leur faire mal au cœur.
Rappelez-moi de cette position.
Il a l'air tellement mal aimé, le pauvre. Mais non, j'aime la nouvelle énergie chez les Vikings. Je pense que Mike Zimmer, ça avait fait son temps. Moi, je l'ai apprécié comme entraîneur, mais toute bonne chose a une fin. Puis le message semblait vraiment plus passer. Le climat semblait très lourd, très négatif chez les Vikings. On amène en Kevin O'Connell un autre de l'arbre Sean McVay. T'sais, on a parlé souvent de son arbre avec les entraîneurs qu'il a formés à gauche et à droite puis qui deviennent entraîneurs-chefs, là. Lui, c'était le coordonnateur à l'attaque des Rams. Donc, c'est un peu... Les Vikings tentent le coup de quelques autres équipes, là, c'est-à-dire on mise sur l'attaque, on amène un jeune pilote respecté des joueurs. Donc, on verra ce que ça va donner, mais ils ont certainement l'attaque pour rivaliser avec n'importe qui. Là. Quand tu regardes là, Cousins qui lance la balle à Justin Jefferson, à Adam Thielen, Dalvin Cook dans le champ arrière, une ligne à l'attaque qui n'est plus la joke que c'était il y a 2-3 ans.
Non, mais vraiment pas. Ça, les Vikings, j'avoue qu'à chaque fois que je regarde les matchs, je me dis, ils ont quand même du temps et des trous pour courir. Là. Ça,
il n'y a pas de doute. T'sais, la grande question...
Aujourd'hui, ça fait une différence.
C'est ça. La grande question, c'est la défense. Ils ont signé quelques joueurs pour s'améliorer. La tertiaire me laisse un petit goût amer. Je suis pas très convaincu. Là, tu sais, quand Patrick Peterson est ton demi de coin numéro un, c'est plus le Patrick Peterson qu'on a vu avec les Cards. Là, tu sais, c'est autre chose. Mais quand même.
C'est ça. Je pense que ça
va être tellement une bonne machine offensive que les Vikings, je serais pas surpris qu'ils gagnent cette division-là. Puis, tu sais, l'année passée, ils ont perdu 9 matchs. 8 de ces 9 matchs-là. Ça a été par un toucher au moins. C'est une équipe qui était déjà compétitive malgré des résultats décevants. Écoute, j'ai l'impression que ça va prendre le bon côté.
On s'en va dans l'Ouest. On va passer à travers une division aussi qui est un peu mal aimée là, parce qu'on se dit il y a des bonnes équipes. Il y a l'équipe du Super Bowl, tu vas me dire. Là, mais en général, c'est pas une équipe où on regarde pour les aspirants au Super Bowl. Mais est-ce que les Rams peuvent être les aspirants au Super Bowl cette année, surtout qu'on sait que Matt Stafford est blessé. Là. Il n'est pas en grosse shape. Là.
Ben, s'il y a une question, c'est celle-là, parce que je vois pas d'autre chose pour faire dérailler les Rams, honnêtement. Il y a des bonnes équipes dans la conférence, mais c'est une conférence beaucoup plus faible que l'AFC. Puis les Rams, je passe rapidement, parce qu'honnêtement, il n'y a pas de trou vraiment majeur dans leur alignement. Ils ont signé même Bobby Wagner, le secondeur, qui va avoir très faim pour un autre Super Bowl. Puis j'aime l'embauche d'Allen Robinson, le receveur, là, parce qu'honnêtement, c'est très important, les receveurs, dans le système de jeu de Sean McVay. Puis c'est une arme vraiment imposante pour Matthew Stafford. La seule question, comme tu le mentionnais, il est blessé au coude. On a géré pas mal son temps de jeu en pratique, en match préparatoire. Ça a fait beaucoup jaser au camp des Rams. Mais si Stafford est en santé, avec cette défense-là, puis leur capacité à développer de bons jeunes joueurs, les Rams sont en voiture dans leur division.
Qui d'autre peut les embêter? Est-ce que la signature de... en Arizona de... voyons, le corps arrière...
Kyler Murray.
Kyler Murray, merci. Est-ce que le Kyler Murray qui a une clause, faut y mettre une clause pour qu'il joue aux jeux vidéo? Est-ce que Kyler Murray, sa signature, il est installé comme corps arrière? Est-ce que les Cards peuvent embêter les Rams dans cette division-là?
Je pense que les Cards ont de bonnes chances de faire les séries, mais embêter les Rams, je suis pas convaincu de ça. Kyler Murray, il va falloir là, que ça s'élève un petit peu. T'sais, pour l'instant, moi, je trouve que c'est un bon corps arrière, mais écoute, s'il y a eu cette fameuse histoire de clause-là qui devait au moins étudier 4 heures chez lui là, par semaine, il y a anguille sous roche, c'est louche un peu. On l'a retiré, la clause, parce que ça paraissait très mal.
Mais tant qu'à ça, il aurait dû la laisser.
Ben, tu sais, c'est vraiment spécial. Puis, on n'en parle pas beaucoup, mais DeAndre Hopkins, son receveur numéro 1, suspendu 6 matchs. Il y a Marquise Brown qui arrive, mais là, il faut que tu développes quand même une chimie avec lui. Puis, une perte qui fait très mal, c'est en défense, Chandler Jones. Tu sais, ça fait des années que c'est un gars qui produit 10 sacs et plus par année. Tu sais, c'est un gars qui est très, très, très constant. C'est une production là, récurrente année après année. Il y a rien dans cet alignement-là qui s'approche de lui. Là. Puis, tu sais, les gens vont dire, ouais, J.J. Watt, non, J.J. Watt, il est hypothéqué complètement par les blessures depuis plusieurs années. Ça va être difficile. Je pense que les Cards vont être compétitifs, mais pas de là à déloger les
Niners.
Les Niners, tout dépend de Trey Lance. Je sais qu'on revient beaucoup au corps arrière, mais c'est ça dans la NFL.
Ouais.
C'est sa première saison comme partant. Il a été recru l'an passé, mais il a à peu près pas vu le terrain. Il y a beaucoup de questions le concernant parce que c'est un gars qui a très peu d'expérience, même dans la NCAA, puis il joue avec un programme, là, North Dakota State, qui... Écoute,
rien à voir avec nécessairement.
Non, c'est d'un monde de différence. Donc, les Niners qui sont bien construits, de bons receveurs, un bon jeu au sol, c'est une bonne défense encore une fois. Mais tout va dépendre du rendement de Trey Lance. T'sais, tu sautes un peu dans le vide avec lui en espérant que ça se passe bien. Dans certains cas, ça lève l'équipe à un autre niveau. Dans d'autres cas, ben, il y a une grosse période de transition. J'ai l'impression que ce sera pas nécessairement une année facile pour Trey Lance en raison de son gros manque d'expérience.
Est-ce qu'on va voir à quel point c'était l'équipe de Russell Wilson, les Seahawks, cette année?
Oui, tout à fait. Là, les Seahawks, ça s'enligne très mal. Ça va être une des équipes qui va connaître une saison très difficile. Tu sais, c'est Geno Smith, le partant. Je comprends qu'on peut se dire, ouais, en quelques matchs l'an passé, il n'a pas trop mal paru. Mais c'est toujours différent quand tu t'amènes dans une situation désespérée comme réserviste que comme partant en début de saison. Là, t'sais, les équipes vont le voir venir assez rapidement. L'époque de la Legion of Boom en défense, là, on est à des années-lumière de ça. Là, c'est vraiment plus ce que c'était. Il y a de bons jeunes qui semblent vouloir pousser là, au camp d'entraînement. Là, mais écoute, les Seahawks, ça va être une année très difficile.
On finit ça en beauté avec la NFC East. Est-ce que tu vois une équipe avoir 10 victoires dans cette division-là?
En beauté, ça dépend comment on voit ça. Tu dis, on finit ça en beauté. Mais écoute, s'il y a une division imprévisible dans la Ligue, c'est celle-là. Là. Pour te le donner, là, c'est que il n'y a pas une équipe dans l'Est qui a gagné le championnat de division 2 années de suite depuis les Eagles en 2003 et 2004. Fait que chaque année qu'une équipe monte au sommet, on se dit, ouais, l'année prochaine ne sera pas fameux là, pour toutes sortes de raisons. Il n'y a pas de stabilité. C'est un peu tout croche. On le sait pas d'année en année. Écoute, j'ai aimé ce que les Eagles ont fait. Je vais dire ça, là. Je suis pas convaincu parce qu'ils ont pas battu de grosses équipes l'an passé. Tu sais, ils ont gagné souvent des matchs contre des équipes un peu ordinaires. Mais dans la saison morte, ils ont ajouté plusieurs morceaux importants en défense. Demi de coin James Bradbury, le secondaire Hassan Reddick. Ils viennent d'aller chercher, comme je le disais plus tôt, Chauncey Gardner-Johnson. Très, très beau move en défense. Puis à l'attaque, tu vas chercher A.J. Brown. Ce que tu viens dire à ton jeune corps arrière, Jalen Hurts, c'est on croit en toi, on te donne les armes pour réussir. Maintenant, amène-nous à la terre promise. J'aime ça qu'on fasse confiance à Hurts. C'est pas comme si on reste les bras croisés en se disant, ben, on va voir, s'il est bon, ben tant mieux. Sinon, on repêchera un carrière l'an prochain. On lui donne une vraie chance. Donc, j'aime ce qu'ils ont fait les Eagles des deux côtés du ballon.
À Dallas?
Dallas, écoute, il y a Mike McCarthy qui est encore là. Ça, ça les aide pas.
Ouais. Non, ça, c'est...
Ouais. Pis, sinon, ben, c'est le groupe de receveurs qui fait peur. Là. Ils ont perdu Amari Cooper. CeeDee Lamb va en avoir beaucoup sur les épaules, surtout qu'en début de saison, Michael Gallup risque d'être sur la touche. Il y a beaucoup moins de profondeur au poste de receveur. Même chose à la ligne à l'attaque. Ça a toujours été la force des Cowboys depuis presque quoi, 5-6 ans.
C'est Tyron.
Tyron Smith.
Tyron Smith.
Ouais, qui s'est blessé.
Pour la saison.
Là, on va tenter de mettre le jeune choix de première ronde, Tyler Smith, à sa place. Sauf qu'au camp d'entraînement, il a pratiqué presque exclusivement comme garde parce qu'on n'avait évidemment pas prévu cette blessure-là. Bon, c'est ça. Il y a comme une adaptation côté ligne offensive qui va être à voir, là. C'est sûr qu'en défense, ils ont progressé beaucoup l'an passé, puis je pense que ça va continuer, là, ne serait-ce que le jeu de Micah Parsons, qui est fabuleux à voir. Là.
Ouais.
Donc, c'est une équipe qui va cogner à la porte des séries. Là, les faire ou pas les faire, il y a matière à débat.
Est-ce
mais
qu'ils
je
vont
pense
gagner
que...
leurs deux matchs contre les Giants?
Ça, c'est toujours une grande question. C'est toujours une grande question. Ça aiderait beaucoup.
Parce que les Giants, cette année, on s'entend aussi que c'est une année là où... Ils se disent peut-être que l'année passée c'était une erreur puis que c'est cette année que ça va marcher avec la même recette parce que
ouais là les Giants c'est beaucoup de changements. Brian Daboll qui était le coordonnateur à l'attaque des Bills qui devient l'entraîneur chef, il y a un nouveau DG aussi qu'on a amené des Bills aussi. Donc on semble vouloir importer cette culture là des Bills de Buffalo. C'est un peu ce que je vois comme l'année de la dernière chance. Là. Ça pourrait être la dernière chance de Daniel Jones comme corps arrière. Ça pourrait être la dernière chance de Saquon Barkley aussi. T'sais, il y a eu beaucoup de blessures. Ça pourrait être la dernière chance de Kenny Golladay qui a signé un riche contrat l'an passé comme receveur puis qui a produit que dalle. Honnêtement,
on va dire qu'il était blessé. Il y a une chance cette année de se reprendre. Mais comme tu dis, ouais. C'est...
Tu vois, je te parle d'une équipe qui a quand même des joueurs de talent, mais qui n'ont pas produit en raison de blessures, en raison de crampes au cerveau. T'sais, Daniel Jones, sa présence dans pochette qui tend pas nécessairement à s'améliorer. Donc, j'ai hâte de voir avec un coach comme Daboll si ça peut le sauver. C'est intéressant qu'on lui donne une année là, pour se faire valoir, qu'on n'ait pas tiré à plug tout de suite. Mais c'est un nouveau régime, dites-vous qu'ils vont avoir la mèche courte.
Et à Washington, on termine avec la capitale américaine qui, eux aussi, là, avec Carson Wentz, doivent ménager leurs attentes.
Ouais, c'est ça. Carson Wentz qui écoute, je sais pas là, pourquoi il y a toujours une chance. C'est sa troisième chance. c'est surprenant, mais écoute, en même temps, qui veut devenir en ce moment, je dis bien en ce moment, là, le corps arrière des Commanders de Washington, tu sais, c'est une organisation qui est minée par les scandales, par-dessus scandales, par-dessus scandales. Ça va être dur d'attirer des gros, gros noms là-bas au poste le plus important, là, parce que tu sais pas dans quoi tu vas aller patauger. C'est vraiment pas évident. Probablement que Carson Wentz, dans ce contexte-là, était la moins pire option, disons-le comme ça. Puis écoute, il y a quand même des armes offensives intéressantes. La grande question à Washington, c'est la défense. Est-ce qu'on va voir la défense qui semblait en voie de tout casser en 2020 ou celle qui s'est effondrée l'an passé? C'est le gros point d'interrogation parce que ça va déterminer beaucoup de ce que va être Washington. J'ai l'impression que faut pas s'attendre nécessairement à de grands résultats.
C'est malheureux parce que c'est, comme tu dis, c'est une équipe quand même...
historique, là.
Historique, c'est ça, là. Est-ce que Benjamin Saint-Just, est-ce qu'il a fait l'équipe, hein? Notre Québécois qui était qui avait beaucoup de promesses l'an passé?
Ouais, beaucoup de promesses l'an passé. Par contre, il avait subi deux commotions cérébrales. Ça l'a clairement pas aidé. Il a raté énormément de matchs. Cette année, on le switch à l'intérieur parce qu'il était demi de coin à l'extérieur l'an passé. Là, on va l'essayer pour couvrir les ailiers insérés. Donc, gros changement dans son cas. Ça va être intéressant à surveiller.
Merci beaucoup, Stéphane, pour cette première épisode de la Zone payante de cette saison numéro 4. Je te souhaite une bonne semaine. Je souhaite une bonne semaine à nos auditeurs. Et on va se retrouver la semaine prochaine avec une nouvelle édition de la Zone payante. Merci tout le monde. Bye.